Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 21 septembre 2022. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia. Pour commencer, les titres. Discours du président américain Joe Biden aujourd'hui devant l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Et intervention hier de ses homologues congolais Félix Tshisekedi et centrafricain Faustin Archange Touadéra. Nous retrouverons notre correspondante sur place, Dili Diko. Au Sénégal, verdict attendu aujourd'hui au procès en appel du maire de Dakar, Barthélémy Diaz. Au Niger, arrivée d'Algérie d'une nouvelle vague de plus de 600 migrants refoulés. En Afrique du Sud, les candidats sont désormais obligés de déclarer les dons de campagne. Ukraine, Washington fustige les simulacres de référendum prévus par la Russie. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Deuxième journée du débat à l'Assemblée générale des Nations unies, ce mercredi à New York, au programme le discours du président américain Joe Biden, ainsi que ceux de la Côte d'Ivoire et du Nigeria. Mais en attendant le début de ces débats, retour avec Dili Diko sur les discours marquants de mardi après-midi.
La première journée des débats généraux s'est terminée avec les discours du président de la RDC, Félix Tshisekedi, et de Faustin Archange Touadéra, son homologue centrafricain. Le président congolais a longuement parlé de la situation sécuritaire en RDC et ouvertement pointé du doigt le Rwanda.
En dépit de ma bonne volonté et de la main tendue du peuple congolais pour la paix, certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo. C'est le cas actuellement du Rwanda qui, au mépris du droit international, de la charte de l'ONU et de l'acte constitutif de l'Union africaine, a une fois de plus non seulement agressé en mars dernier la République démocratique du Congo par des incursions directes de ses forces armées, les RDF, mais aussi occupe des localités de la province du Nord Kivu par un groupe armé terroriste interposé, le mouvement du 23 mars, dit M23, auquel il apporte un soutien massif, tant en matériel de guerre qu'en hommes de troupes.
Pour sa part, le président centrafricain, Faustin Archange Touadéra, a estimé dans son allocution que cette 77e édition de l'AGNU est l'opportunité de nourrir la réflexion sur les défis partagés de l'humanité. Il a mis l'accent sur les questions liées à la sécurité, la paix, l'environnement et la santé et s'est fait l'écho des propos du président sénégalais Macky Sall appelant l'ONU à élargir à l'Afrique les sièges des membres du Conseil de sécurité. Monsieur Touadéra s'est ensuite penché sur les difficultés économiques de la Centrafrique et les solutions mises en place.
La République centrafricaine est le premier pays d'Afrique à adopter le Bitcoin comme monnaie de référence paiement numérique et le premier au monde à adopter à l'unanimité le projet de loi régissant les crypto-monnaies. Cette initiative ambitieuse et innovante présente un potentiel énorme pour repositionner l'économie, améliorer les perspectives et changer le destin des Centrafricains en cette époque où il faut s'ouvrir à de nouveaux horizons et à des solutions qui vont au-delà du conventionnel.
Toujours mardi, le président français Emmanuel Macron a appelé à plus de partenariats Nord-Sud, mis en garde contre la partition du monde et qualifié le conflit entre l'Ukraine et la Russie de retour en arrière. Pour la session d'aujourd'hui, discours très attendu de Joe Biden, le président américain, qui doit parler dans la matinée, et côté africain, ceux de la Côte d'Ivoire, du Nigeria et du Rwanda. Dili Diko, VOA Afrique, New York.
Le président Joe Biden, qui prononce donc aujourd'hui son discours devant l'Assemblée générale des Nations unies, entend aborder la question d'une réforme du Conseil de sécurité. C'est devenu un cheval de bataille pour les Américains depuis l'invasion de l'Ukraine, Mohamed Houmfa.
Le président américain va parler sérieusement de la question d'une réforme du Conseil de sécurité à New York, a dit hier Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche. Nous déterminons encore si ce sera de manière publique ou lors d'entretiens avec le secrétaire général de l'ONU et d'autres, a-t-il ajouté en indiquant qu'il était toutefois très possible que Joe Biden s'exprime en public sur le sujet. Ce qu'il va vraiment mettre en avant à propos de l'Ukraine, ce sera le principe fondateur au cœur de la Charte des Nations Unies, selon lequel un pays ne peut pas conquérir ses voisins par la force, a dit Jake Sullivan. Chaque État, démocratie ou autocratie, a ratifié les principes de la Charte des Nations Unies, a-t-il conclu. La question d'une réforme du Conseil de sécurité ressurgit à chaque grande crise lorsque l'un des membres permanents utilise son droit de veto pour bloquer une résolution. Mais la manière dont Moscou a utilisé son veto depuis l'invasion de l'Ukraine a poussé Washington à plaider pour un élargissement du Conseil de sécurité.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Sénégal, plus de 10 ans après les faits, le verdict du procès en appel du député maire de Dakar est fixé à ce mercredi. Barthélémy Diaz, qui a été condamné en première instance pour la mort du jeune Niaga Diouf, attend le verdict de son procès en appel depuis plusieurs mois. Notre correspondant à Dakar, Sedina Abagay.
5 ans de prison ferme, c'est la peine qu'avait requis le parquet lors du procès en appel du député maire de Dakar, Barthélémy Diaz. Ce mercredi, la cour d'appel doit enfin donner son verdict, à moins qu'un nouveau renvoi ne soit prononcé dans cette affaire qui dure depuis pratiquement 11 années. Il faut dire qu'à l'affaire, Niaga Diouf peine à connaître son épilogue. Pour rappel, Barthélémy Diaz, alors maire de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, avait été attaqué à l'hôtel de ville de la dite commune par des nervis supposés appartenir au Parti démocratique sénégalais du président Abdoulaye Wade, qui était au pouvoir au moment des faits. Arrêté sous Wade, puis libéré à l'arrivée du président Macky Sall au pouvoir, Barthélémy Diaz a été condamné en 2017 à une peine de 2 ans, dont 6 mois ferme, qu'il a déjà purgé. Son verdict en appel traîne et le principal concerné est le premier à s'enlacer. Quoi qu'il en soit, l'épilogue annoncé de cette affaire attise déjà les tensions. Les députés de l'opposition ont appelé à la mobilisation et à Dakar, beaucoup craignent des débordements si le maire de la capitale sénégalaise venait à être condamné à une peine plus lourde par la cour d'appel. Sedina Abagay à Dakar pour VOA Afrique.
Plus de 600 migrants originaires d'une dizaine de pays africains sont arrivés dans le nord du Niger après avoir été refoulés d'Algérie. Selon des autorités locales hier, quelques 669 refoulés de l'Algérie sont dont deux Nigériens et 667 ressortissants d'Afrique de l'Ouest et centrale sont arrivés à pied le 17 septembre à Assamaka, ville nigérienne la plus proche de la frontière algérienne. Des 667 migrants, on dénombre 648 hommes, 14 femmes et 5 mineurs. En Afrique du Sud, les dons de campagne doivent désormais être déclarés selon la Cour constitutionnelle. Cette obligation vise à lutter contre la corruption. Elle survient avant un vote au sein du parti au pouvoir, l'ANC, pour désigner son président et le candidat à la prochaine présidentielle, Eric Manerakidza.
Cette mesure abroge la règle qui était en vigueur, prévoyant que la déclaration des dons dans le cadre de campagne pour des postes au sein des partis politiques n'est pas obligatoire. Dans une décision, la juridiction suprême estime que l'ancienne pratique porte atteinte à la loi sur l'éthique et au régime des conflits d'intérêts, dont les dispositions sont essentielles pour la transparence et la lutte contre la corruption rampante. Le financement de la campagne du président Cyril Ramaphosa pour la direction du parti avait suscité la controverse en 2017. Il avait été accusé d'avoir dissimulé au Parlement un don de 35 000 dollars à l'époque. Monsieur Ramaphosa, 69 ans, avait été finalement blanchi par la Cour constitutionnelle et avait pris les rênes du pays en février 2018 après la démission de Jacob Zuma, mise en cause dans des scandales.
Merci Eric. Les Nations Unies et des ONG expriment leurs inquiétudes face à la réaction violente des autorités iraniennes visant les protestations contre la mort d'une jeune femme après son arrestation par la police des mœurs. Au moins 3 personnes ont été tuées pendant ces manifestations, Nanit Talani.
Mahsa Amini, 22 ans, originaire de la région du Kurdistan, a été arrêtée le 13 septembre à Téhéran pour port de vêtements inappropriés par la police des mœurs, chargée de faire respecter le code vestimentaire strict pour les femmes de la République islamique d'Iran. Elle est tombée dans le coma après son arrestation et est décédée le 16 septembre à l'hôpital, suscitant une vague de colère en Iran et des condamnations dans le monde. Des rassemblements ont eu lieu dans la capitale, mais les heurts les plus violents se sont déroulés dans le Kurdistan.
La Minute Écho, Mohamedou Houmfa.
En Afrique du Sud, la Cour constitutionnelle a prononcé mardi l'obligation de déclarer les dons de campagne, une décision visant à lutter contre la corruption qui survient avant un vote interne au parti au pouvoir, l'ANC, pour désigner son président et candidat à la prochaine élection présidentielle. Le financement de la campagne du président Cyril Ramaphosa pour la direction du parti avait suscité la controverse en 2017. Il avait été accusé d'avoir dissimulé au Parlement un don de près de 35 000 dollars à l'époque. Le Fonds central d'intervention d'urgence des Nations Unies a débloqué 10 millions de dollars pour venir en aide aux victimes de la crise alimentaire et nutritionnelle qui sévit dans le nord-est du Nigeria, a déclaré lundi Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Près de 2 millions d'enfants de moins de 5 ans risquent de souffrir de malnutrition aiguë cette année et plus de 300 000 enfants devraient souffrir de malnutrition aiguë sévère, selon l'ONU. Le nombre de millionnaires en dollars en Chine devrait doubler d'ici 2026 selon un rapport de Crédit Suisse, et ce malgré le fort ralentissement de l'économie et la campagne de Pékin visant à réduire les inégalités. En 2021, la Chine comptait 6,2 millions de millionnaires, c'est-à-dire plus d'un million de plus qu'en 2020. Ce chiffre devrait doubler pour atteindre 12,2 millions dans 5 ans selon la Banque Helvétique.
Merci Mohamedou. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
En marge de l'Assemblée générale de l'ONU, le sport mondial parie sur l'Afrique.
Oui, l'Afrique est encore un marché sous-développé pour les grandes disciplines sportives mondiales, alors que le continent est un réservoir de milliers d'athlètes prêts à grossir les rangs du football, du basketball ou du football américain. C'est l'appel lancé par des représentants et sportifs américains, africains et d'origine africaine lors d'un forum à New York en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Parmi eux, Adam Silver, le patron de la NBA, qui a salué le potentiel des joueurs africains ou d'origine africaine, relevant que plus de 10% des basketteurs de la NBA sont nés en Afrique ou avaient des parents africains. Il s'exprimait aux côtés d'anciennes étoiles de la NBA comme Dikembe Mutombo, originaire de la RDC, la sensation de la WNBA, Chinyere Ogwumike, d'origine nigériane, et l'actuel ailier des Toronto Raptors, le Camerounais Pascal Siakam. Du côté du foot, le président de la CAF, le Sud-Africain Patrice Motsepe, est revenu sur le lancement l'an prochain de la Super League pour 24 clubs africains.
L'Afrique du Sud candidate pour accueillir la Coupe du monde féminine 2027.
Nous aimerions avoir l'occasion de dérouler à nouveau le tapis rouge en 2027 pour le tournoi féminin, a déclaré Tebogo Motlanthe, directeur général de la Fédération sud-africaine de football. Le pays avait déjà organisé la Coupe du monde de football masculine en 2010. Les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne ont déjà formulé leur candidature commune. L'Afrique du Sud, le Maroc, la Zambie et le Nigeria sont les pays africains qualifiés pour la Coupe du monde féminine en 2023, qui sera organisée par l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Le Cameroun et le Sénégal font partie des 10 équipes qui se sont qualifiées pour les barrages prévus en février 2023, avec 3 places à prendre.
Ici aux États-Unis, en NBA, Anthony Edwards a été mis à l'amende pour propos homophobes.
La jeune star de Minnesota devra s'acquitter d'une amende de 40 000 dollars Pour ses propos homophobes tenus dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux la semaine passée, l'annonce a été faite par la NBA. Quelques heures après la diffusion de cette vidéo, l'arrière de 21 ans avait présenté ses excuses. À un mois du début de la prochaine saison, la NBA est en effet secouée par l'affaire Robert Sarver, du nom du propriétaire de Phoenix Suns, suspendu un an de toute activité officielle par l'instance pour comportement raciste et misogyne.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au lendemain de la rencontre lundi entre le président nigérien Mohamed Bazoum et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, en marge des travaux de l'Assemblée générale des Nations unies, le gouvernement américain a offert 13 millions de dollars en équipement militaire au Niger. C'est pour renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité du pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. De Niamey, notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Le don, selon le ministre de la Défense nationale, vient renforcer le Niger dans son option de former des forces spéciales pour faire face au terrorisme. Al-Kassoum Indatou.
Ce matériel est une preuve de la solidité des relations entre le Niger et les États-Unis et de l'appui que les États-Unis offrent à notre pays dans le cadre de la montée en puissance de nos forces armées nationales. Nous avons fait l'option de mettre un accent particulier sur les forces spéciales. Dans ce cadre-là, les États-Unis nous ont continuellement appuyés comme d'autres partenaires l'ont fait. Et nous remercions les États-Unis et je pense que d'autres armées feront le nécessaire pour arriver à maintenir la paix de notre pays et continuer à donner notre appui aux forces armées des pays voisins dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.
Pour les États-Unis d'Amérique, le Niger est un leader régional dans le cadre de la lutte antiterroriste dans le Sahel. Suzanne Garnet, chargée d'affaires à l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger.
C'est parce que l'ambassade des États-Unis partage avec vous cette vision sécuritaire que le gouvernement des États-Unis fournit au CFS ces matériels. Nous espérons que cette assistance logistique contribuera à la montée en puissance du CFS. Le gouvernement des États-Unis va continuer à contribuer à votre formation et à vos déploiements aux opérations de maintien de la paix. Nous espérons que cette contribution aidera à la préparation opérationnelle de NERBA 10 au moment même où une formation est en cours au centre de formation à Oahu. Le partenariat entre nos deux pays est plus solide que jamais.
Le don est composé de 43 véhicules tout-terrain, dont 8 engins blindés de transport de troupes, destinés essentiellement au centre de formation des forces spéciales et à celui de formation au maintien de la paix. Leur valeur, 8,5 milliards de francs CFA. Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
En RDC, au moins 15 personnes ont été tuées mardi matin dans le territoire de Kwamout, sur la nationale numéro 17. Deux villages sur l'axe Kinshasa-Bandundu-Ville ont été ciblés, affirme la société civile et un élu local. Mais ce bilan n'est pas confirmé par les autorités du Maïnombé. La gouverneure estime qu'il est trop tôt pour donner le bilan de cette attaque. Rita Bola annonce le déploiement des militaires dans cette zone. Les explications d'Alex Katikatayi, notre correspondant à Kinshasa.
Les assaillants ont attaqué simultanément ce mardi matin les villages de Libonga et Bisiala, à 180 km de Kwamout Centre. C'est sur la nationale numéro 17, Kinshasa-Bandundu-Ville. Selon des informations non encore confirmées, à Bibonga, ces hommes munis d'armes à feu ont tué les chefs du village et quelques membres de sa famille. Le bilan serait plus lourd à Bisiala, affirme le député Guy Mosomo, élu de Kwamout.
Ils sont entrés là-bas, mais on nous dit qu'ils ont plutôt des armes militaires. Ils sont entrés à Bissiala, ils ont tué 9 personnes. Donc la situation reste toujours tendue. Ce matin, vers 5h du matin, ils ont attaqué sur deux fronts, le front de Bibonga et le front de Bissiala. Mais là-bas, les gens sont en débandade, hein. Ce sont ceux qui fuient, qui me racontent tout ce qui se passe là.
L'insécurité est depuis quelques semaines localisée sur la nationale numéro 17 qui quitte Kinshasa pour Banundouville, en passant par le Maïndombe. L'absence des militaires dans cette partie serait à la base de cette situation, déplore Martin Fouta de la société civile de Kwamout.
Donc ce milieu n'est pas couvert de la sécurité militaire. Donc les militaires qui sont à toi ne se déplacent pas. Ceux qui sont en Gambon aussi ne se déplacent pas, sauf ceux qui sont à Kwamout ou qui font le mouvement. Alors le milieu n'est pas couvert de sécurité. Alors, nous demandons au gouvernement de renforcer un peu l'effectif des militaires et aussi d'assurer les moyens de déplacement, surtout les engins leur permettant de faire le mouvement.
La gouverneure du Maïndombe ne confirme pas le bilan avancé. Rita Bola promet plus de précisions le lendemain, après avoir réuni tous les éléments. Mais elle affirme qu'un déploiement de l'armée est en cours sur la nationale numéro 17.
Pour ce tronçon-là, on continue à avoir des cas isolés des assaillants. Alors, on a déployé des bataillons. Et je pense qu'aujourd'hui-là, la nuit d'aujourd'hui ou la journée même, ils vont envahir tout ce coin-là. Et je pense qu'on va en finir avec cette histoire de Kwamout.
Donc vous ne pouvez pas confirmer les bilans de ce matin?
Non, je ne peux pas confirmer. Tant que je n'ai pas le rapport clair des services, je ne peux pas. Nous, les informations d'aujourd'hui, on les donne sûrement demain. Parce que ce sont des distances énormes. Il faut des gens qui doivent aller jusque-là.
La gouverneure du Maïndombe rassure que le travail s'est fait sur terrain. Rita Bola promet que d'ici quelques jours, on ne parlera plus de cette situation de Kwamout. Alex Kati Kataï, Kinshasa, VO Afrique.
En République centrafricaine, une partie du corps judiciaire est en grève. Avocats, notaires et huissiers de justice ont cessé depuis ce lundi certaines de leurs activités. Ils entendent protester ainsi contre les messages de haine et les menaces proférées contre des acteurs et institutions judiciaires du pays par des organisations politiques proches du pouvoir, nous dit de Bangui notre correspondant Freeman Sipila.
Depuis le déclenchement du processus de la rédaction d'une nouvelle constitution, les messages de haine refont surface dans le milieu politique centrafricain. L'opposition, qui s'oppose à une nouvelle constitution, a saisi la Cour constitutionnelle aux fins d'annulation du décret du chef de l'État créant le comité de rédaction. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase est la manifestation, le 8 septembre dernier, d'une organisation proche du pouvoir devant la Cour constitutionnelle. Les manifestants, qui veulent que la Cour ne traite pas la requête de l'opposition, ont menacé de s'en prendre physiquement au juge. Pour les avocats, notaires et huissiers de justice, cette pratique soutenue par le pouvoir doit cesser. Maître Émile Bison, bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Centrafrique.
Nous assistons ces derniers temps à des violences de toutes sortes sur l'ensemble du corps judiciaire et qui n'est pas de nature à inspirer la sérénité pour ce pouvoir. Le dernier acte qui avait été posé, je le rappelle encore, c'est ces actes d'intimidation et des menaces de mort à l'encontre des membres de la Cour constitutionnelle. Nous ne pouvons pas tolérer cela. Nous ne pouvons continuer à croiser les bras et voir se dégrader le climat social en République centrafricaine. Nous voulons garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire.
Lundi, les mécontents ont observé un sit-in devant le siège de la Cour constitutionnelle, mais ce mardi, ils ont été déguerpis par les forces de sécurité. Le corps judiciaire n'est pas le seul à s'inquiéter des dangers que représentent les messages de haine et d'incitation à la violence. Un groupe de femmes de la société civile a écrit au président de la République pour interpellée, Pamela Audrey Derome, présidente de la jeunesse centrafricaine et une d'entre elles.
Malheureusement, nous constatons qu'aujourd'hui, il y a même certaines autorités, certains dignitaires, c'est ceux-là qui se lancent aussi dans ces menaces, des injures et des mobilisations d'attaques contre des individus et personne ne réprimande et c'est comme si la violence est légalisée et que chacun devrait en faire autant.
Que fait le Haut Conseil de la communication face à la montée des discours haineux? José Richard Poimbi, son président, répond.
S'il y a la désinformation, s'il y a l'appel à haine par voie de presse, c'est-à-dire exercé par les journalistes, c'est de la compétence ou de la responsabilité du Haut Conseil de la communication. Mais si vous avez les appels à la haine, les appels à la violence ou la désinformation par les simples citoyens de la République qui mettent les informations en ligne, c'est de la responsabilité du parquet.
El Hadj Laurent Moussa Gon Baba, président du Conseil national de la médiation, tire la sonnette d'alarme et met en garde contre les conséquences de cette nouvelle tension alimentée par les politiques.
Ces jeunes
jeunes qui pensent que la nouvelle technologie est devenue un moyen d'expression de la liberté, mais qu'ils sachent que ces moyens-là constituent un couteau à double tranche. S'ils ne savent pas utiliser ces moyens, il faut qu'ils sachent que leur avenir risquerait d'être compromis.
Face à ces messages de haine et de violence à l'égard des acteurs judiciaires, les avocats, notaires et huissiers de justice entendent faire des sit-ins jusqu'au vendredi prochain pour réclamer l'indépendance des institutions judiciaires. De son côté, le gouvernement opte pour l'instant pour le silence. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Les professionnels dans le domaine de l'énergie au sein du COMESA, marché commun de l'Afrique orientale et australe, estiment que les pays membres doivent promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables afin d'augmenter le nombre des ménages qui ont accès à l'électricité. La plupart des pays de la région affichent toujours un niveau d'électrification encore faible. De Kigali, les précisions de Jean Damascène Manishimwe.
Réunis à Kigali pendant 5 jours, les professionnels dans le domaine de l'énergie, dont les pays membres du COMESA et ses partenaires dans ce domaine, déplorent le fait que la production d'électricité dans la région du COMESA est estimé à un peu plus de 91 000 mégawatts, un chiffre encore faible compte tenu de la population de la communauté, estimé à plus de 600 millions d'habitants. Ils indiquent par ailleurs que le changement climatique a eu un impact négatif sur le secteur de l'électricité dans certains États membres du COMESA qui dépendent de l'énergie hydraulique, une situation qui pourrait perdurer selon toujours ses experts. C'est pourquoi, poursuivent-ils, les pays de la communauté doivent diversifier les sources d'énergie en songeant à l'énergie solaire, comme l'indique le secrétaire général adjoint du COMESA.
Our aspiration in COMESA is to promote regional integration in our region.
Notre aspiration en tant que COMESA est de promouvoir l'intégration régionale et nous le faisons en permettant à nos pays de collaborer étroitement. Nous souhaiterions qu'une telle intégration s'applique aussi au secteur de l'énergie et voir nos pays travailler ensemble pour exploiter les ressources disponibles, en l'occurrence l'énergie solaire. Nous sommes en train d'examiner les défis de nos pays membres en termes d'utilisation de l'énergie solaire disponible.
D'autre part, les pays de la communauté doivent songer à l'exploitation judicieuse des ressources et à la qualité des produits utilisés dans la production d'énergie solaire, faute de quoi les consommateurs hésiteraient toujours à recourir à cette source d'énergie, comme l'indique Jean-Baptiste Moutabazi, les chargés des infrastructures au sein du COMESA.
La normalisation aide beaucoup plus à donner la sécurité pour le consommateur. Et il peut aussi réduire les prix et il peut faciliter la diffusion des produits de bonne qualité. J'essaie de voir tout cet éclairage public. On peut utiliser uniquement des panneaux solaires. Mais maintenant, quels sont ces panneaux solaires qui peuvent durer longtemps, qui ne peuvent pas causer des ennuis? Et ça peut être mis en place parce que c'est des poteaux que tu mets là-bas, une batterie que tu mets là-bas et une lampe, et une panneau solaire aussi, une lampe. Et il y a moyen de faire beaucoup de choses ici dans le pays. Mais si on a ces standards, on sait quel panneau solaire qu'il faudrait avoir, quelle batterie qu'il faut avoir. Vous les avez et le secteur privé peut entrer facilement dans ce secteur.
Les statistiques fournies par le marché commun de l'Afrique orientale australe montrent qu'à l'exception de quelques pays comme l'Égypte, dont le taux d'accès à l'électricité est de 100%, celui de la plupart des pays de la région restait faible, avec un taux moyen d'accès estimé à un peu plus de 50%, une situation qui pourrait retarder la réalisation des projections de la communauté en matière d'intégration régionale et de développement. Jean Damascène Manishimwe, pour VOA Afrique, Kigali.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la 77e Assemblée générale des Nations Unies dans un contexte de crise et de défis intriqués. Washington Forum sera à New York, la capitale diplomatique mondiale, durant cette rencontre annuelle des leaders de la planète. Les crises sécuritaires, alimentaires et sanitaires, nous évoquerons leurs implications en Afrique et dans le reste du monde. Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia, à la mise en onde de Michel Joseph, à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée, à l'écoute.